servant de tout le monde, antenne École du Magasin, Take You There Radio.
Allô Christophe, c'est Théo.
Salut Théo.
Ça va?
Bien et toi?
Ouais, désolé, j'ai eu un souci de communication.
Aucun
Télécommunication.
problème, tu sais, moi je suis sur la plage, je bouge pas.
Tu peins toujours les cabines là?
On est à 98, il y en a 122.
Ah, il reste quand même un petit peu.
Y a du boulot. J'espère que le ressac de la mer ne va pas te gêner.
Non, ça va, je l'entends pas du tout. À part peut-être ça va aiguiser ma jalousie, mais sinon ça va.
Oui, c'est ça que j'espère.
Oui, donc je voulais te poser des questions sur Palikao, sur
Oui, je vais essayer d'activer ma mémoire.
cette aventure. Déjà, à peu près quand ça a commencé selon toi?
On l'a ouvert le 10 mai 81.
D'accord.
C'est-à-dire le jour de l'élection.
Ouais.
Non, ça doit être le 11 en fait, parce que c'était le lendemain, ouais.
De l'élection de François Mitterrand, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais.
Ça, c'est.
C'est la première expérience socialiste depuis plus de 60 ans, je crois. Enfin, depuis la guerre.
Ouais, ça veut dire quelque chose quand même.
C'était un autre enthousiasme que les élections qu'on peut suivre avec les élections socialistes, quoi. Donc il y avait véritablement dans l'état d'esprit de la France une espèce de métamorphose complète. Tu sais, à l'époque, les gens partaient avec des ceintures de billets en Suisse. C'était la panique, quoi. Il y avait des communistes, c'était l'Union de la gauche. Il y avait des ministres communistes au gouvernement. Enfin, ça, c'est le contexte politique du moment, quoi.
Et là-dedans, vous avez trouvé ce lieu, c'est ça? Vous étiez combien au début?
Au tout début, nous étions que deux. C'était moi et Bruno Rousselot. Avec Bruno, on avait fait les Beaux-Arts ensemble, tu vois, la même année.
Ouais.
Bruno, lui, n'avait pas passé son diplôme, il avait quitté l'école avant. Enfin, il était allé à Dijon et puis il a pas passé son... il est revenu à Besançon, il n'a pas passé son diplôme et il était déjà à Paris depuis un an.
Ok.
Et moi j'ai fait mon service militaire après les Beaux-Arts.
Donc t'es passé de Besançon à Grenoble et après t'es remonté à Paris. Ok.
Je me suis inscrit à Paris 8. À Paris 8 parce que Bruno y était en art plastique. Et c'est là où on a rencontré Richard Marty-Vivès, Felice Varini et Nando Snoddi. Enfin, c'est
Ok.
des copains quoi, de fac.
D'accord. Et du coup, vous étiez encore à la fac quand vous avez fait cette usine ou non?
Oui, on était en fait plus ou moins dilettantes à la fac. C'est qu'on suivait surtout les cours d'Astroubal Colmenares et d'Edmond Cuchot et de Deleuze, parce qu'on devait prendre une option dans un autre département, tu vois. Donc, on suivait, enfin, pour ma part, je suivais essentiellement ces trois cours-là.
D'accord.
On n'a pas vraiment fait de cursus, quoi.
Ouais, vous
Mais
prenez.
Felice, Nando et Bruno, qui était déjà à la fac, eux, ils étaient à Vincennes. Parce que moi, quand je suis arrivé, c'était la première année où elle était à Saint-Denis. Ça a été le
D'accord.
déménagement de la fac de Vincennes.
Ouais. Ok.
Donc, j'ai crêché un peu chez les copains, j'ai un peu voyagé dans Paris.
Ouais.
Et puis, j'ai un peu partagé l'appart. Je dormais dans l'atelier de Bruno. C'était juste une petite pièce qu'il avait à côté de chez lui. dans le 20e. Et puis on cherchait un atelier quoi pour nos activités artistiques. Et après plusieurs recherches, on a trouvé ce lieu-là, usine. C'était marqué sur le fronton, usine de Palikao. Et on a, il y avait un téléphone, on a appelé le gars et il nous a dit que c'était un bail précaire. Donc nous, on s'est constitué en asso. Et puis après, en association, qui s'appelait ERA, Espace de Recherche. Et puis le propriétaire s'est fait peur avec une asso et un bail précaire. Il a eu peur qu'on ne puisse pas, il puisse pas nous virer.
D'accord.
Rapidement. Donc, il a plus voulu nous louer. Il a fait un revirement, quoi. Et donc, on a rencontré à ce moment-là deux jeunes artistes qui venaient de, qui sortaient des Beaux-Arts de Aix-en-Provence. C'était Thierry Chevernet et Christine Caco, qui étaient en couple à l'époque. Et par rapport à des cautions, c'est Christine qui a pris le bail à son nom.
D'accord.
Ce qui incitera la suite de l'aventure un peu plus tard.
Ok.
Le fait qu'elle soit signataire du bail, quoi.
Ah oui, ok. Et après, vous avez commencé à faire des événements de direct ou vous avez d'abord, servi comme atelier ou...
On s'est partagé 4 apparts et 4 ateliers, puisqu'on avait 850 mètres carrés, tu vois. En fait, c'était une maison bourgeoise sur laquelle ils avaient adjoint une verrière, une usine, quoi, sur la face, allant jusqu'à la rue de Palikao.
Ok.
Et donc, dans un premier temps, on a un peu aménagé nos espaces privatifs. Et puis... il fallait tout repeindre en blanc, mais on n'avait pas de thunes à proprement parler. C'était quand même, c'était pas un squat, hein, c'était loué.
Et comment vous le louiez? Comment vous le louiez si vous n'aviez pas de thunes? C'était pas si cher que ça, le loyer?
Oui, non, c'était dérisoire. Je sais plus à l'époque combien ça coûtait, mais je sais pas, peut-être on en avait pour 150 francs chacun, ou un truc comme ça, ou 200 francs.
Ok.
Enfin, c'était. C'était pas un problème vraiment financièrement. Ça restait, tu vois, par rapport au contexte locatif de l'époque, assez dérisoire.
D'accord.
Mais compte tenu que le bail était précaire et que d'un moment à l'autre, l'usine devait être démolie, quoi. Donc, on a cherché de la peinture pour repeindre tout en blanc, ce qui était quand même pas rien, puisqu'il y avait 800 mètres carrés. Et nous sommes allés voir le fournisseur de Beaux-Arts qui s'appelle Adam.
Ok.
Avec un M à Montparnasse, qui était Adam Montparnasse. Je crois que toujours ça existe. À l'époque, c'était un peu l'équivalent de Sennelier, des grands fournisseurs de Beaux-Arts, quoi.
Marin ou juste comme ça.
Voilà. Et il nous a filé la peinture. Donc, ça a été notre premier mécène.
D'accord.
Et on a repeint tout le lieu en blanc. Suite à quoi, on a commencé des programmations. Et dans l'ordre, je ne sais plus trop. On a fait une expo de peinture qui s'appelait Baroque 81, je crois. Parce qu'à l'époque de... À l'époque, au musée d'art moderne... Non, c'était... Baroque 80, c'était une initiative du musée d'art moderne de la ville de Paris. Et notre expo s'est appelée « Vous avez dit baroque » et on avait exposé plusieurs artistes qui avaient une pratique assez... d'une peinture assez, je dirais, décorative. À l'époque, c'était un truc qui marchait assez fort sur le marché, qui était la « pattern painting ». Avec des gens comme Ron Merritt, Robert Zakanich, qui étaient présentés chez Templon ou qui avaient été présentés peut-être au musée d'art moderne. Donc la pratique de Christine Caco et Thierry Chevernet était assez dans cette optique. crois qu'on avait demandé à une nana qui travaille au musée d'art moderne, qui s'appelait Annick Chemama, qui était peintre, d'exposer. Je crois que Bruno Rousselot y avait participé aussi à cette expo. Il y avait Pierre Leclerc, qui était le régisseur du musée d'art moderne de la ville de Paris.
Mais...
ça correspondait aussi à un moment où on devait être assistant pour Sol LeWitt quand il avait fait sa, son expo perso au musée d'art moderne de la ville de Paris. Mmh. Et c'est par ce biais peut-être qu'on les avait rencontrés.
Mais du coup, ce que je comprends, c'est que c'était, il y avait eu cette expo au MAMVP. Et vous, vous en aviez refait une avec, autour des
on
mêmes...
On avait rebondi sur le titre proposé à l'époque par l'ARC.
Ok.
Donc c'était déjà Suzanne Paget, je crois.
En
80. Puisque à cette époque, je crois que Pierre Gaudibert était parti sur la maison, sur le musée de Grenoble.
Ok.
Celui qui avait fondé l'ARC, en fait.
D'accord. Mais ouais, parce que vous, du coup, vous avez repris, rebondi sur le thème en prenant des artistes qui étaient peut-être moins...
Ah oui, absolument inconnus, ouais.
Ouais, moins,
ouais, c'était déjà peut-être un peu ce, cette question de se dire que on va chercher à l'étranger des tendances alors que il y a des gens qui bossent dessus depuis un moment, quoi.
Mais c'est une revalorisation par l'extérieur, quoi, presque.
Oui, en tout cas par la connaissance d'un terrain plus direct et plus caché, quoi.
Non, mais ça, c'est vous, mais ce que vous critiquiez, c'était cette espèce de, une espèce de valorisation par l'extérieur, toujours, quoi. Qui...
Oui, oui, bon, en même temps, c'était pas une critique, c'était une réponse, quoi. Okay. Je sais pas si on se mettait dans un militantisme quelconque par rapport à ça. C'était juste de dire, de se dire, bah oui, ici aussi il y en a. Quoi. Ils sont jeunes et ils sont inconnus. Mais, mais malgré tout, il y avait, on était donc un lieu totalement libre, non subventionné, n'ayant de compte à rendre à personne. Donc c'est aussi notre façon de dire, voilà, il y a des trucs comme ça aussi chez nous. Je ne sais pas si les choses étaient formulées d'une manière aussi précise à l'époque, enfin, parce que tu vois, ça fait déjà 35 ans, non?
Ouais, mais c'est avec le recul maintenant que tu te dis ça, je sais pas.
C'est un peu loin dans ma mémoire quand même. Hein.
Mais t'avais quel âge à l'époque du coup, 25?
Eh ben, en 80, je suis né en 56, il faut faire le calcul. En 60, j'avais 4 ans. Donc, j'avais 25 ans, non?
Ouais, c'est à ça, peu près.
Ouais, quoi, à peu près l'âge d'une sortie d'école, quoi.
Ouais, à peu près.
Sauf que ni moi ni Bruno n'avions notre bac. On est arrivé aux Beaux-Arts avant le bac, quoi.
Ouais.
Moi, en CAP de mécanicien, et puis Bruno, je sais pas ce qu'il avait fait. Bon, en tout cas, je devais avoir, 25 ans. Et puis, je pense que ça a eu un certain succès malgré tout, cette expo. Parce que sans doute on était un des premiers lieux alternatifs dans Paris, ou en tout cas dans cette ampleur de surface, quoi.
Ouais.
Donc on a vite eu, sans prospection, des propositions venant un peu de toutes parts, quoi.
D'accord.
Donc les gens étaient un peu surpris de découvrir ce lieu, nous demandaient est-ce qu'on pourrait présenter notre travail. Enfin, les choses se sont faites assez simplement. Nous, nous n'avions, comme nous n'avions de compte à rendre à personne, nous n'avions pas de programmation, a priori. Et donc les choses pouvaient se décider du jour au lendemain pour dans 15 jours ou dans 20 mois si on le souhaitait, quoi. Mais plutôt dans une réactivité assez dense, tu vois, c'est-à-dire plutôt dans la semaine ou les 15 jours qui suivaient. C'est dans cette foulée qu'on a fait l'expo de Felice, qui était sa première, puisqu'on se fréquentait à la fac, et je crois pas qu'il avait déjà exposé, donc Enfin, il avait peut-être fait une pièce chez un particulier, mais bon, il n'avait jamais eu d'expo perso, quoi.
Ouais, première monographie, comme on dirait maintenant.
Ouais. Et puis, il y a des gens aussi, évidemment, du spectacle qui nous ont contactés. On a présenté une pièce qui s'appelait Ezanetor, avec trois comédiens, qui a tourné pendant, je sais pas, peut-être une quinzaine de jours. C'était Jean-Michel Leisgen, Emmanuel Ostrowski et Daniel Magnin, je crois. C'est lointain. Hein. Mais bon, je me souviens que c'était des amis de Daniel Émile Fork, qui est un acteur que tu connais peut-être, non?
Non.
Qui a été qui a une gueule incroyable avec un accent un peu russe et qui était proche de Nosferatu dans le physique déjà.
Ok.
Et donc là, je me souviens que il y avait le critique de Libération qui était venu, mais comme on devait fermer le rideau de fer à une certaine heure et que j'étais en charge de ce boulot, j'avais fermé le rideau de fer sur les pieds et il avait tiré la gueule, quoi. Et les acteurs m'avaient dit, mais tu as fermé le rideau de fer sur les pieds du journaliste de Libé, mais t'es dingue. Comment il s'appelait? Je sais plus qui c'était. C'est peut-être Dobels déjà à l'époque. Je sais plus.
Et les concerts, du coup?
Thibauda, je crois.
Et du coup, vous aviez fait des concerts aussi?
Il y a eu des concerts, ouais, mais plus tardivement, dans la seconde partie de Palikao.
C'est quoi la seconde partie quand t'appelles ça? La seconde partie, c'est parce que.
La seconde partie, c'est plus ou moins quand on a été viré par. Par Christine Caco. Ce qu'on a fait beaucoup, c'est des performances, nous, au début. Ouais. Il n'y avait pas véritablement de lieu qui présentait de la performance sur Paris.
D'accord.
Il y avait la galerie Eligio Alvaro à Montparnasse. Et puis nous, essentiellement. Donc, je ne sais plus qui étaient les groupes, mais en l'occurrence, il y en avait un qui s'appelait Acrylique Nova. Dans lequel il y avait, entre autres, Joël Ducouroy, par exemple, qui participait. On a fait aussi... on a présenté de la danse.
Ouais.
C'était Mark Tompkins et Lila Green qui étaient venus nous voir.
Ah, Mark Tompkins.
Hein?
Lui, je le connais encore. Il y a encore de l'activité, Mark.
Oui, Mark, il est toujours sur le tarmac, ouais. Et il voulait fêter la création du ballet de Gisèle, le 140e anniversaire, je crois, de la création du ballet de Gisèle. Et ils ont invité eux-mêmes plusieurs danseurs qui ont eu des notoriétés par la suite, telles que, je crois qu'il y avait Régine Chopineau, il y avait Kitsou Dubois, dont je me souviens, il y avait... un danseur de buteau. Ben, tout ça est bien loin. Il y avait des concerts de Joël Léandre.
Ouais.
Et des performances de Bouillot et... Le Bouillot et le Magnin, je ne sais plus comment ils s'appelaient. Je n'ai pas tous ces trucs vraiment en tête.
C'est pas grave. Hein.
Voilà. On avait invité aussi, il y avait un terrain vague en face de l'usine, et Émile Dubois, le groupe Émile Dubois, avait fait aussi une série de chorégraphies entre l'usine et le terrain vague.
D'accord.
Et puis aussi, à l'époque, les radios n'étaient pas libres. Donc on hébergeait Radio Ivre, qui plus ou moins est devenue... Radio Nova, enfin pour une partie.
D'accord.
Dedans, il y avait Hector Zazou qui habitait pas loin, de Palikao, et qui faisait pas mal de choses. Et puis, à l'époque, une radio libre, ça tournait toute la nuit, avec des gens qui venaient parler, c'était pas qu'un problème de musique, quoi. Et c'était secret, c'était caché, donc il ne fallait pas se faire choper parce que la répression était assez tendue, quoi, par rapport aux radios libres.
Ouais. D'accord. Mais parce que c'était quand les radios libres, c'est sous Mitterrand, non?
Mais ça n'était pas du départ, quoi.
D'accord.
Et comme on avait un toit, accès au toit, ils pouvaient tirer leur antenne et tout ça.
Oh, c'est bien.
Donc c'était aussi une activité. Quand on rentrait dans l'usine, il y avait un espèce de bureau du contremaître juste à côté de la porte, et ils s'étaient installés dans ce petit bureau-là avec leur table de mixage. Et donc il y avait une espèce d'activité permanente de gens qui venaient parler. De projets, de tout ça. C'était aussi les débuts un peu de la photocopie.
Ouais.
Et donc, tout ce qu'on faisait, on le faisait en photocopie, montage avec du bâton de colle et
Ouais.
machine à écrire, quoi.
Ouais.
Alors, on n'avait pas de bande repro, des trucs sophistiqués. Donc, toi, genre un peu le graphisme de Bazooka.
Ouais, un peu fanzine, quoi.
Voilà. Et je me souviens qu'on faisait qu'une seule photocopie, qu'on collait toujours dans la rue Quincampoix, à Paris,
Ouais.
parce que c'était à l'époque une rue où il y avait beaucoup de galeries. Et avec ça, on en arrivait à faire 200, 300 personnes
Par mois.
par expo.
Ok. Ah ouais, c'est beaucoup.
Et sans téléphone portable, sans, enfin tous ces trucs auxquels on est habitué aujourd'hui, quoi.
Sans internet, sans...
Donc juste un bout de papier, les gens rentraient chez eux, ils appelaient sur leur fixe, les potes et tout ça, et le public arrivait le soir, quoi. Je pense que ça correspondait véritablement à une demande, toi. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de structures associatives, de choses qui dynamisent un peu la vie culturelle. Mais sur Paris, à l'époque, on était très peu, quoi.
D'accord.
En tout cas, on était ceux qui avaient le plus d'espace. Je me souviens parce qu'on était en liaison avec d'autres assos. Il y avait les Six Doigts de la Main d'Or, il y avait 663 par 314, ou je sais plus quoi. C'était les côtes du lieu, au sol, quasi. Je me souviens plus de tout ça, mais... Par exemple, Ramon Tiobelido faisait partie de 663 par 314. Non, par les Six Doigts de la Main d'Or, je crois. Il y avait Servan Zanotti qui était dedans aussi. Enfin, des gens qui, par la suite, ont eu critique, directeur d'école, etc.
Ouais. Mais du coup, par rapport à ça, comment vous choisissiez les gens? Parce que c'est les gens qui faisaient des propositions, mais est-ce que vous aviez une politique de toujours dire oui ou...
Presque oui. Bon, enfin, on discutait quand même de la véracité de la chose. Ça nous paraissait intéressant, quoi. C'était pas un oui systématique. Mais après tout, le public qui venait nous voir, qui connaissait le lieu, était déjà des gens qui étaient dans leur pratique plutôt intéressants, quoi.
Ouais, il y avait un truc de montrer en tant que parce que moi ce qui m'intéressait aussi dans ce lieu, c'était parce que c'était des artistes qui géraient ça aussi, dont toi.
Oui, c'est ça. Donc, on était un peu au cœur de cette création qui se faisait en direct, quoi.
Donc il y avait un truc de montrer presque sans intermédiaire, quoi. Enfin, montrer ou par
Oui,
l'intermédiaire
en tout
de.
cas, ce dont je me rappelle, et que j'ai essayé de reproduire par la suite, c'est de ne pas avoir de subvention nous permettait vraiment une liberté totale dans la programmation. Personne ne pouvait rien nous dire, quoi. À part les normes de sécurité qui n'étaient pas top, hein. Mais il n'y avait pas non plus cette parano qu'on a aujourd'hui, quoi. Puisque je me souviens que Jack Lang était venu, tu vois, voir des trucs. Donc, il était ministre de la culture à l'époque, tu vois, sous une verrière qui n'était pas armée, avec des bouts d'air plus ou moins cassés, tu vois. Donc, c'était pas aussi tendu qu'aujourd'hui, tu vois.
Ouais.
Donc aujourd'hui, à peine ouvert, ça serait fermé, quoi, pour ces raisons-là, quoi. C'est une espèce de nouvelle censure sécuritaire. Mmh. Parce que, justement, je m'occupais d'une galerie dans mon bled, à la côte Saint-André, dans l'Isère.
Ouais.
Et là, on était en liaison avec, avec Gaudibert.
Ouais.
Et on avait organisé des symposiums, enfin des rencontres d'artistes dans ma région, avec Peuple et Culture.
Ok.
Grenoble.
Non, parce qu'en fait, si je dis ça, parce qu'ils ont toujours ce modèle-là de ne pas demander de subvention.
Ah oui, oui, oui.
Et ils tournent depuis 20 ans maintenant, comme ça. Donc, je sais pas.
Voilà, oui, mais moi, je te parle d'un truc de 30 ans, quoi.
Ouais, c'est un peu plus...
C'est des mais bon, mais il n'y avait pas, je me souviens pas qu'il y avait une DAP au ministère de la Culture à l'époque où elle était en formation. Il n'y avait pas de DRAC, il n'y avait pas de CAC, il n'y avait pas de FRAC. Tu vois, le paysage était assez différent.
Ouais. Et ouais, mais après, je pense qu'il reste toujours. Enfin, les choses changent, mais il y a toujours des territoires, je pense, qui ne sont pas investis ou des endroits comme ça où.
Ah oui, non, il reste. Du travail à mener, oui, encore ouais. Aujourd'hui, ouais.
Ouais.
C'est certain.
Et j'étais tombé sur un article en anglais sur une galerie qui avait fait une retransmission à travers l'Atlantique
à Palikao. Oui, parce que ce qui s'était passé, en fait, c'est que à un moment, Thierry Chevernet et Christine Caco s'étaient séparés. Que Thierry Chevernet s'était maqué avec une nana qui était à Paris, une américaine qui s'appelle Pat Hearn. Et Pat Hearn a ouvert une galerie à Brooklyn, une des premières galeries qui s'est ouverte à Soho après, tu vois.
Ouais.
Donc Pat avait des relations avec le milieu artistique new-yorkais et on avait fait en effet une retransmission en direct, une des premières entre Palikao et New York.
Ok. Wow.
Et Pattern vivait avec Thierry à Palikao.
D'accord. Ok. Et du coup, tu disais que les concerts, c'était surtout en seconde partie, et ça, c'est quand vous étiez plus là.
On était plus ou moins chassés de Palikao parce que Christine Caco s'était maquée avec un gars de Acrylic Nova.
Ouais.
Et c'est plutôt eux qui ont... Enfin, je me souviens, il y avait déjà Lazzaro, tu sais, de Pigalle, là, du groupe Pigalle, ou des garçons bouchés.
Ouais.
Qui était producteur déjà et qui nous proposait des groupes, quoi.
Ouais.
Donc, il y a eu déjà des concerts dans cette période-là. Et c'est après, dans cette période, où on a été viré de Palikao par Christine Caco et le mec d'Acrylic Nova avec qui elle vivait. Et ça tournait un peu calme, hein, à vrai dire.
Tu sais, du coup, c'était en 83, non?
Non, ça c'était 82, toi, ça durait à peine un an, je t'ai fait.
Ah, ok. Ouais, y a un truc hyper éphémère, quoi.
Ouais, mais qui était super bon. Enfin, qui a continué peut-être un peu sur 82. Mais moi, je n'ai pas connu la fin, l'expulsion, s'il y en a eu, et tout ça. Parce qu'on l'avait déjà été nous-mêmes, au sein de,
à l'intérieur.
Du groupe, quoi. De l'intérieur, ouais.
Mais du coup, oui.
Non, vas-y.
Non, parce que j'avais eu des noms de groupes comme les Berruyers Noirs, Rita Mitsuko et tout ça, c'était pendant la seconde partie.
Je me souviens des concerts d'Erita Mitsuko, je crois que c'était dans la cave.
Ouais.
Ouais. On avait une cave voûtée comme ça qu'on avait déblayée pour justement l'expo de Felice Varini qui avait fait une pièce dans la cave aussi.
Ok.
Mais il y a eu pas mal de performeurs. Il y a eu le Crack Milk aussi qui a fait des concerts. Donc moi je me suis retrouvé après dans un pavillon en banlieue quand on m'a prêté, enfin une vieille dame qui partait à l'hôpital, je devais garder son pavillon. Bruno a trouvé un appart, je crois que c'est rue Faubourg-Poissonnière. Mmh. Et puis voilà, ça, l'affaire s'est terminée un peu sans nous. Donc dans le catalogue de cette dernière Biennale de Paris, c'est assez intéressant, si tu peux le trouver. Peut-être ils doivent l'avoir au magasin, à la bibliothèque. Tu as toutes ces associations qui sont répertoriées un peu. Et nous, on n'apparaît plus sous Palikao, on apparaît sous ERA, le nom de l'asso qu'on avait créé au départ. Ouais. Et on avait fait, en fait, on avait participé à la Biennale de Paris, à la Galerie Images, à la Côte-Saint-André, dans l'Isère, puisque je m'occupais encore de ce lieu-là. Et on avait fait une expo de Stéphane Bordarier et Nando Snodi.
Ok.
C'était les derniers soubresauts de l'aventure Palikao.
Ouais, tel que tu l'as connu.
Puis l'usine a été détruite pour construire la rue Francis Picabia. Une rue qui n'a qu'un numéro. Donc une rue pas très utile, tu vois, qui relie la rue de Palikao à la rue des Couronnes.
Ouais.
Je vois. Aujourd'hui, la rue de Palikao, elle est complètement métamorphosée. Il n'y a pas un immeuble qui ne date pas de ces années 80, donc il n'y a plus aucun vestige de cette époque.
Mais c'est bien ça, non?
Mais par exemple, dans le film Police de Pialat, beaucoup de scènes sont tournées à rue de Palikao, qui était un peu l'image type du repère de brigands.
C'est
ça, c'est des opportunités qui font... Enfin, j'ai toujours pensé que c'était les lieux qui faisaient les initiatives, quoi.